Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue pour les résultats du week-end. On va parler de football, de judo et également de boxe pied-point. Enfin, deux flash résultats. On va commencer par le football et la CFC qui recevait Bourges au Stade Lebon. Un match important pour la CFC hein, qui en cas de victoire pouvait définitivement valider son maintien mathématique pratiquement. Et malheureusement, les Angoumoisins sont fait surprendre par Bourges. Un but de Kevin Tabué à la 12e minute et malheureusement Angoulême n'est jamais parvenu à revenir au score. Défaite 1-0 pour les hommes de David Giguette qui concèdent leur 5e match sans victoire à domicile. Ils auront un déplacement la semaine prochaine à Romorantin avec une équipe en forme, mais également la CFC est en forme à l'extérieur, donc pourquoi pas aller chercher au moins un match nul pour atteindre cette barre des 40 points. Une défaite forcément frustrante pour l'entraîneur de la CFC, David Diguel, qu'on écoute tout de suite.
Alan, défaite malheureusement 1-0 contre Bourges, il marque d'entrée de jeu sur leur première occasion, et puis derrière malheureusement tu n'as plus aucune intervention à faire. J'imagine que pour toi c'est frustrant finalement de d'encaisser un but assez rapidement et puis derrière d'être spectateur pratiquement du match.
Voilà, c'est les matchs les plus frustrants, hein, comme vous avez dit. On prend un but sur le début de match, je pense qu'on commence pas de la meilleure manière. Et voilà, et derrière on court après le score, c'est compliqué. Voilà, on a fait notre partie, hein, mais marquer des buts contre un bloc très bas, en N2, voilà, les équipes savent bien défendre. Ça arrive.
Oui, tout à l'heure David disait que finalement c'est Bourges, vous avez rendu un peu la pièce de la monnaie de votre pièce, où vous gagnez un peu là-bas sur le même scénario. Finalement, ce championnat de N2, il est compliqué pour les équipes qui jouent à domicile.
Très très compliqué, parce que bon, je pense que c'est une poule qui veut bien défendre, qui est très forte en transition, donc ça favorise pas trop les équipes qui ont le ballon. Et on l'a vu aujourd'hui, hein, on l'a vu, je pense que sur les premières minutes on a le ballon. On se fait contrer, on prend un but et derrière, voilà, c'est très compliqué de bouger les blocs en N2, surtout dans cette poule. C'est une poule qui prend pas énormément de buts, donc voilà, c'est comme ça, il va falloir retourner lundi travailler pour assurer le maintien définitivement.
Ouais, parce que là du coup avec 39 points, il manque encore cette petite victoire entre guillemets pour l'assurer, tu penses?
Oui, je pense. Faut surtout pas se dire que c'est fini, parce que ce serait une erreur de notre part. Là on a besoin surtout d'aller gagner à Romo, parce que dans les têtes aujourd'hui. Pas simple, ça nous embête aussi de ne pas pouvoir offrir à Lebon et aux spectateurs ce qu'ils méritent. Ça fait franchement, je pense, quelques temps qu'on n'a pas gagné à domicile, c'est pas normal.
Depuis février.
Voilà, donc c'est de le rappeler. Et non, faut rectifier le tir, il va rester un match à Trélissac à domicile, très important.
Ouais. Et dernière question, il y a une stat qui dit que finalement vous n'êtes jamais revenu quand vous avez encaissé le premier but de la rencontre. Comment toi tu l'expliques? Est-ce que finalement il y a des leviers qu'on peut mettre en action pour pallier à ça?
Bon, je pense que voilà, on a toujours des leviers à améliorer, on a toujours des choses à travailler. Il est vrai que Angoulême, on est très fort quand on mène, très très fort. Et on a un peu plus de difficultés quand on est mené, c'est une réalité.
C'est aussi le premier but dans cette poule qui marque peu, qui est finalement hyper important.
Et oui, c'est le foot, hein. Même à haut niveau, hein. Ça se voit un peu moins, mais pour l'équipe qui marque en première, déjà la santé psychologique, ce qui est énorme. Et peut-être, ouais, moi je pense que c'est aussi psychologique. Je pense que dû au fait que ça fait quelques temps qu'on n'arrive pas à revenir, on psychote un peu, et puis à l'image de ce soir, on a tendance un peu à se précipiter, à vite faire la dernière passe. Mais bon, c'est comme ça, c'est un travail d'équipe, on va retourner travailler, et puis oui, on va essayer d'améliorer tout ça, et puis on va tâcher à très bien finir la saison.
Bon, et dernière question, personnellement, tu as refait un clean sheet du coup à Andrézieux,
oui.
Ce qui monte ton total à pas mal de clean sheets. Comment tu te sens là, après avoir laissé un peu l'intérim à patte pendant quelques matchs?
Je me sens bien, là, je commence à retrouver mes sensations. Le week-end dernier, ça n'a pas été simple, parce que j'avais pas joué depuis longtemps et dans une ambiance assez compliquée à Andrézieux. Mais l'intérim a été très 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 bien assuré. Maintenant, il faut bien finir la saison, qui que ce soit qui soit dans le but. Et voilà, mais oui, personnellement, ça fait toujours plaisir, mais sans les coéquipiers qui se donnent à fond, j'en aurais pas autant. C'est-à-dire, si je défends tout seul contre 11, ça va être compliqué.
Ça marche.
Voilà, donc forcément, David Diguel déçus de ne pas gagner à domicile. On a également rencontré le gardien de but de la CFC, Alan Unou, hein, qui du coup malheureusement n'a pas eu grand chose à faire durant ce match. Et forcément pour les gardiens, c'est les matchs les plus frustrants. Et on l'écoute également tout de suite.
Bon David, malheureusement défaite 1-0 contre Bourges. Voilà, c'est le genre de match toujours un peu les Angoulême-Bourges. Cette fois ça a fait 1-0 pour eux. Ils marquent dès leur première occasion. J'imagine que frustré peut-être par les 20 premières minutes de ton équipe ce soir.
Ouais, on a été un peu poussé sur les 20 premières. On a manqué de. C'était le match est parti sur un faux rythme. Les deux équipes étaient un peu attentistes. On savait que Bourges viendrait pour nous contrer, donc on voulait pas non plus prendre des risques inconsidérés et rentrer dans leur jeu. Donc voilà. Et puis effectivement, sur leur première incursion, ils marquent sur quelque chose qu'on avait vu à la vidéo en plus. Voilà, mais bon, c'est comme ça, on a plutôt bien réagi après. On fait une bonne fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a poussé. Mais on s'est heurté à une équipe qui était bien en bloc, bien groupée. Un peu ce qu'on avait fait nous au match aller. Ouais. On avait marqué rapidement et après on avait fermé et voilà, ils avaient buté sur notre animation défensive. C'est un peu le championnat qui est comme ça. Voilà, mis à part les ceux qui sont tout là-haut qui font preuve de beaucoup de régularité et qui arrivent à prendre des points souvent, les autres, les équipes se tiennent. Ça se joue à pas grand-chose à chaque fois et généralement l'équipe qui marque en premier et qui est réaliste ou gagne le match ou marque un point. Donc voilà, à nous de bosser et puis d'aller faire un gros match à l'extérieur à Romo pour prendre des points.
Oui, c'est vrai que d'autant plus que vous et Bourges avez des qualités similaires, c'est-à-dire que quand vous marquez le premier but, vous perdez rarement et vous faites rarement même revenir au score et ce soir malheureusement vous n'avez pas pu le faire.
Non, parce que encore une fois ils étaient venus avec l'intention de se mettre un peu bas et de nous contrer. Le premier but les conforte dans leur stratégie. Voilà, il aurait fallu être mieux défendre sur le premier but pour rester dans le match à 0-0, pour peut-être qu'eux seraient découverts un peu plus parce qu'ils avaient malgré tout un peu plus besoin de points que nous. Donc voilà, mais c'est cette poule encore une fois qui est comme ça. Oui. Voilà, c'est très très équilibré. Andrézieux, on a marqué les premiers, on a fait un peu comme eux et on en a mis un deuxième au début des mi-temps. Ça nous a permis de jouer dans ce qu'on avait prévu, comme on avait prévu. Voilà, on est tous pas satisfaits. On aurait tous préféré gagner ici. On a du mal sur cette deuxième partie de saison à gagner à Le Bon. Ça m'emmerde parce que je préférais à la limite que ce soit l'inverse, qu'on gagne ici et qu'on perde à l'extérieur. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui se déplacent. Voilà, mais faut bien penser aussi qu'on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès de gagner à l'extérieur.
Et puis qu'il y a une équipe en face.
Oui, et puis on ne fait pas exprès de gagner à l'extérieur et de perdre à domicile. Honnêtement, voilà, moi j'ai mes proches qui viennent, les joueurs ont leurs proches qui viennent, il y a des gens qui sont ici, des gens de Angoulême qui voudraient nous voir gagner. Donc voilà, il faut qu'on a besoin de progresser encore dans certains domaines pour pouvoir mieux aborder ces matchs-là. Mais encore une fois, je pense que les joueurs s'investissent, donnent, mais ne sont pas toujours récompensés comme il faudrait.
Vous avez fait aussi une bonne début de seconde période, notamment beaucoup de coups francs par Thierry Lemaitre qui a été assez actif. Malheureusement, il y avait toujours soit le gardien qui l'a capté, soit une tête, soit une jambe de Bourges. Et puis malheureusement, quand Baba marque, il est hors jeu, donc ça n'a pas voulu sourire ce soir.
Ouais, c'est une équipe qui est très athlétique, on le savait, qui prend peu de buts aussi. Donc voilà, ils étaient bien regroupés. On a essayé par des coups de pied arrêtés, on a essayé par des renversements de jeu. On a quelquefois réussi à les déséquilibrer, mais où on a manqué de précision dans nos centres, où les centres étaient bons, mais les gars de l'axe n'étaient pas à la réception. Il n'y a pas eu assez de synchronisation. On a eu aussi un petit peu de déchets techniques de temps en temps, mais voilà, c'est difficile d'attaquer un bloc bas et de trouver des espaces. C'est d'être juste, c'est difficile. Voilà, le week-end dernier, Andrézieux aussi s'est tapé notre bloc bas et a eu du mal à se créer des situations. Voilà, c'est comme ça, il faut continuer de progresser et puis aller chercher des points à Romo.
Alors, je sais, pour terminer, je sais que tu n'es pas friand des statistiques que je sors, mais ça fait du coup 4 défaites de suite, 4 matchs sans victoire à Le Bon. Et puis, vous n'êtes jamais revenu au score quand vous avez pris le premier but. Comment tu peux l'expliquer?
Bah, ça prouve bien qu'on a encore des progrès à faire. Ce groupe a de la qualité, mais on a des domaines où on est encore perfectible. Et puis, faut pas oublier que Bourges, c'est une équipe de qualité aussi. On avait gagné 3 fois 1-0, mais à chaque fois, ça avait été.
Je pense qu'eux étaient aussi frustrés que toi au match aller.
On en discutait avec William Pouilly à la fin. voilà, il m'a dit, on vous rend un peu la monnaie de votre pièce, et il avait raison. Là-bas, on est allé là-bas, on a, voilà, ils avaient eu des situations, des bars, et ça n'avait pas voulu sourire pour nous. Aujourd'hui, ça a pas voulu, pour eux, pardon, aujourd'hui, ça n'a pas voulu sourire pour nous. Il faut se rappeler des deux matchs aussi, des deux matchs d'année dernière où on a gagné 1-0, mais je pense que le nul aurait peut-être plus reflété la physionomie de ces matchs-là. Donc voilà, c'est des matchs qui se jouent à peu de choses. Continuons de bosser, de nous améliorer dans les domaines où on est, où on doit être perfectible. Et puis, allons chercher encore quelques points sur ces trois matchs-là qui nous permettront d'établir un constat définitif à la fin de la saison.
Voilà, donc avec les résultats du week-end suivant, donc Nantes et Andrézieux font 1 partout. Donc Bourges gagne à la SFC 1-0. Bergerac et Lorient font 1 partout. Angers bat Romorantin 4-2. Les Herbiers bat Saumur 4-1. Chamanière va gagner à Vierzon 1-0. Gaulle FC va gagner à Moulins 3-1. Et enfin, Trélissac va gagner au Stade Bordelais 2-1. Encore beaucoup de victoires à l'extérieur sur cette poule de National 2. Au classement, premier, Les Herbiers 46 points. Deuxième, Bergerac 46 points. Troisième, Gaulle 45 points. La SFC est désormais 8e avec 39 points, mais avec seulement 2 points de retard sur Chamanière qui est 4e. Donc c'est hyper serré entre le 4e et le 9e. Prochain match pour la SFC la semaine prochaine du côté de Romorantin. En Régional 1, exploit de Cognac qui s'offre le leader Brive à domicile, victoire 1-0 des hommes d'Alvin Henry grâce à un penalty de Michael Bourinet. Dans le même temps, la réserve de la SFC s'incline 2-1 chez l'équipe en forme du moment, Mérignac-Arlac. Au classement, Brive est en tête avec 48 points. Panazol 2e avec 47 points, 3e Mérignac-Arlac 45 points, la réserve de la SFC est toujours 7e avec 33 points et Cognac est 10e avec 26 points. Cognac qui peut encore croire en son maintien, et Angoulême se rapproche du maintien malgré deux défaites de suite. Il compte encore 7 points d'avance sur Cognac à 3 matchs de la fin. En Régional 2, en poule A, victoire de Leroy 3-1 contre Saint-Sauveur. Leroy au classement est toujours sur le podium en 3e position. En poule B, victoire de de Merpin 1 partout à Choré. Défaite de Charente-Limousine 4-0 à Dompierre-Saint-Soul. Et défaite malheureusement de la réserve de Cognac à cause, défaite 7-1. Charente-Limousine est 4e du classement. Cognac est 12e et dernier avec 6 points. Et enfin, Merpin qui fait vraiment une belle opération de ce week-end. Merpin est 7e avec 25 points en poule D. Malheureusement, Jarnac est relégué en R3 puisque Jarnac s'est incliné à domicile contre l'immense 2-0. Le match entre Saint-André de Cubzac et Sireuil a été arrêté. En Régional 3 justement, victoire de Ruffec 3-0 à Nieul l'Espoir et match nul de Confolant 1 partout à Husson du Poitou. Au classement, Ruffec est 3e avec 41 points, Confolant est 7e avec 22 points, toujours 2 points d'avance sur le 9e. En poule F, la poule des Charentais, victoire de 2-1 de Saint-Ariex contre Soyaux, victoire de La Roche-Rivière 1-0 contre Ruel, défaite de Puymoyen à Ribérac 2-1 et victoire de Vindel contre Périgord Centre 4-3. Au classement, Saint-Ariex donc était champion depuis plusieurs journées déjà, il compte 50 points. Enfin, en poule G, une semaine après avoir validé son maintien, eh bien, le match entre l'Alliance 3B et Saint-Émilion a été arrêté en fin de rencontre alors que les Charentais menaient 1-0. Une fin de match assez houleuse, donc l'arbitre a décidé d'arrêter les débats. En district, en division 1, je vais donner les résultats. Victoire de Moutier 1-0 contre les Portugais du Gon. Match nul entre Roulé et l'Alliance 3B 2 partout. Brie, Leroy 1 partout. Victoire de Champigny dans le match au sommet contre Saint-Michel 3-2. Match nul entre Basso et les Sacs 2 partout et match nul entre La Couronne et Merpin 2 partout. Au classement, la bonne opération du week-end est pour Champigny dont nous allons recevoir le président dans Culture Sport. Champigny donc est en tête avec 43 points, deuxième Saint-Michel 39 points, troisième Basso 38 points. En D2, en poule A, victoire de Verdi 3-2 contre Mansle, victoire de Chasseneuil 3-1 contre Montbron, victoire de Ruffec 4-1 contre La Roche-Rivière, victoire de Bélair 4-1 à Charente-Limousine, victoire de Sireuil 3-1 à Saint-Ariex et victoire d'Aigre 1-0 contre Mornac. Sireuil est en tête avec 40 points, deuxième Chasseneuil 38 points. Enfin, en poule B, Victoire de Champigny à Nersec 5-3. Victoire de Saint-Séverin contre Montmoreau 2-1. Ruelle Chazelle 3 partout. Linard bat Sud-Charente 3-0. Saint-Brice est battu à domicile par Jarnac 2-0. Et enfin, Grande Champagne bat Châteauneuf 3-0. Au classement, Linard est premier avec 52 points et se rapproche de la D1, puisqu'ils ont 5 points d'avance sur Jarnac qui est deuxième, avec 2 matchs encore à jouer. Enfin, pour terminer sur le football, défaite malheureusement de la Vissoyau à domicile contre Guingamp en D1 Arkema. Une défaite qui condamne malheureusement les socialitiennes à la D2. C'est fait mathématiquement. Dans les autres résultats du week-end, Rodez et Bordeaux font 1 partout. Fleury est battu par Montpellier 2-1. Reims bat Le Havre 5-0. Lyon bat Dijon 3-0. Et le Paris Saint-Germain et le Paris FC font 0-0 au classement. Lyon prend 3 points d'avance sur le PSG. 3e Paris FC, donc malheureusement Soyo avec 6 points et relégué en D2. En rugby, on va rappeler la défaite du SA15 31-33, hein, mais une défaite qui vaut de l'or puisque le SA15 valide son maintien en Pro D2 grâce à ce bonus défensif. On va parler de handball avec la victoire de l'ETEC à Asson 31-29, donc l'équipe de Rémi Faugère qui valide sa 2e place au classement avec en gagnant chez le 3e, donc avec 50 points. L'ETEC est sûr de terminer 2e de ce championnat de National 2. On va parler de judo ensuite avec 3 Charentais qui étaient à Paris pour disputer une European Cup Junior. Madoma Dumont s'incline en finale de sa catégorie des moins de 66 kilos. Marven Banamak Bikiti prend la 3e place en moins de 73 kilos et Marie Desangles en moins de 70 kilos pour la couronne toujours. Malheureusement, termine au pied du podium 5e, donc voilà, à suivre les futures sélections pour les juniors puisque c'était un tournoi hyper important avec beaucoup de Français dans les tableaux, donc c'était un rendez-vous important pour les futures sélections sur les sorties internationales. On va terminer ce flash sport par le Gala Fight organisé par les frères Aflalay. Donc c'était samedi soir au gymnase de la Grand Fond avec en point d'orgue en main event la victoire de Karim Youssouf contre Mohamed Amachra, l'Espagnol, une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Karim Youssouf a fait un super combat en animant notamment chaque round avec beaucoup de rythme et beaucoup de punch. Donc il s'impose par décision des arbitres. Notez également la victoire de Stéphane Grimpard, l'autre tête d'affiche de la team Aflalay Boxing, en boxe anglaise pour le coup. D'ailleurs, Stéphane Grimpard, on l'a rencontré à l'issue de son combat et à l'issue de sa victoire, et on va l'écouter tout de suite.
Bon Stéphane, victoire lors de votre combat de boxe anglaise, j'imagine que de remporter le match à domicile, pour vous c'est une grande fierté, une grande joie aussi?
C'est un grand plaisir et c'était tellement pas facile parce que il y avait toute la famille, tous les amis, je les remercie, ça donne une force, mais en même temps ça met une certaine pression. Et je remercierais aussi mon adversaire qui était là, qui a répondu présent. Il faut être deux pour faire un grand combat et ce soir je pense qu'on a fait un grand combat et c'était magnifique.
Au niveau de votre combat, vous l'analysez comment? Deux premiers rounds plutôt serrés et vous avez fait la différence sur le troisième notamment?
Il faudrait que je revoie la vidéo. Après, j'utilise bien mon bras avant, je pense que c'est ce qui a marqué des points. Il m'a touché 2-3 fois, il était dangereux quand même. Et voilà, il m'a manqué un peu de changement de rythme, mais bon. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, donc ça fait plaisir.
C'est la première fois qu'on voyait de la boxe anglaise sur un gala d'Hakim Aflalay.
Oui.
On a vu que le public était à fond dedans, donc j'imagine que c'est une expérience positive de voir de l'anglaise ici.
Oui, ça change. Il y a le club SoFight de la team Aflalay qui s'est ouvert au mois de septembre, donc je suis l'entraîneur avec mon camarade Geoffrey Maché, le président Hakim Aflalay et l'entraîneur de boxe pied-point Dalil Aflalay, ouais. Avec Rémi aussi qui entraîne en boxe anglaise. Donc on vient juste d'ouvrir la structure. Et on voulait montrer un exemple aux jeunes qui montent, leur dire que voilà, c'est possible pour tout le monde, même les coachs ils montrent l'exemple.
Oui, que la boxe pied-point est à la tendance, mais que finalement le noble art reste encore bien présent.
Reste encore bien présent.
Ça marche. Évidemment. Un dernier mot pour la famille, les supporters, ceux qui sont venus voir.
Merci tout le monde, il y avait tous mes amis, le régiment du 515e régiment du train, merci mes frérots et ma famille de Normandie qui sont venus. Et puis j'ai envie de dire AU!
Voilà, dans l'ensemble, un super gala encore proposé par la team Aflalay qui a permis à plusieurs de ces jeunes boxeurs de combattre. Hein. On peut penser notamment au junior Saiyan 6000 qui s'est imposé dans son combat. Et nouveauté de cet événement, c'est qu'il y avait également 89 combats en journée, des combattants de tous âges et surtout de tous niveaux. Et donc ça a été une belle réussite. D'ailleurs, le Team Afterlife Boxing donne rendez-vous aux amateurs de boxe pied-point d'Angoulême et des alentours le 2 décembre à l'Espace Cara pour une nouvelle édition du Choc des Guerriers. Tout de suite, Culture Sport avec le président de l'ES Champigny, Pascal Crène. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue sur Attitude 98.3 97, www.attitudefm.com, c'est notre site internet, vous pouvez nous joindre partout en France et dans le monde. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi, 19h, 20h30. Nous accueillons aujourd'hui Pascal Crène, bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Donc je vais vous laisser entre les mains expertes de Christian et Dédé qui sont là. Bonjour Christian.
Oui, salut Dédé.
Donc toujours sur le pont, fidèle au poste.
Toujours.
Et mon Dédé, comment il va?
Salut, ça va. Bon. Après les courses de vélo, ça va.
Parfait. Qui pose la première question?
Allez, honneur aux anciens.
Eh bien, écoute, je te remercie Christian. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Je me suis un petit peu penché sur cette saison qui va bientôt se terminer. Est-ce que l'on pourrait faire un petit bref retour sur la saison qui est donc la saison 2021-2022? Si l'effectif par rapport à cette année de cette saison à la saison 2022-2023 a beaucoup changé. Et donc, voilà, c'est mes premières questions.
Oui, alors il a changé, on va dire, en partie. À peu près, je pense à peu près la moitié de l'équipe a changé. Il y a surtout, alors, pas forcément tout à fait la moitié, c'est qu'il y avait des joueurs qui étaient blessés l'année dernière, qui n'ont pas pu jouer et qui ont joué cette année. Et après, il y a eu des recrues, bien sûr. Donc, on doit jouer à peu près avec 5 joueurs mutés tous les week-ends.
Comment s'est déroulée alors la saison 2021-2022? Et après, on va aborder la saison qui va bientôt se terminer, 2022-2023. Est-ce qu'on peut faire un retour sur la saison passée?
Alors, oui, tout à fait. J'avais la saison 2021-2022 pour nous et à oublier dans la mesure où on a eu beaucoup de difficultés à avoir des joueurs en permanence les mêmes. On a eu beaucoup de blessés toute l'année. Donc, je pense que c'était les suites du Covid. Et on a fait une saison... on va dire sur le plan comptable catastrophique quoi. On s'est retrouvé dernier, on a dû gagner un ou deux matchs, on a dû faire deux matchs nuls dans la saison, c'est tout.
Donc ensuite vous avez enchaîné donc la saison 2022 et celle donc 2023 avec comme vous le disiez quelques bouleversements au sein de l'équipe Fagnon. Donc, comment se déroule ce début enfin cette fin de saison 2022-2023 au regard du classement? C'est favorable pour Champigny, même si vous êtes au coude à coude avec Saint-Michel. On peut un peu résumer cette saison?
Oui, tout à fait. Ben, on est au coude à coude avec Saint-Michel et Basso. On a juste un point d'avance sur Saint-Michel et seulement 3 sur Basso, donc il reste 3 matchs à aujourd'hui puisque on enregistre en avance, donc on reçoit Saint-Michel samedi prochain. En fait, quand l'émission passera, le match sera joué. Le truc du site très intéressant dans la mesure où quand on descend de R3, je dirais dans l'idée, c'était surtout qu'il n'y ait pas une hémorragie et qu'on ait beaucoup de difficultés à rester en première division. Et ça, je dirais, en fait, à aujourd'hui, c'est accompli, quoi. On n'a pas de soucis de ce côté-là. Ça s'est très bien passé. Maintenant, c'est vrai que la fin de saison, il reste 3 matchs à aujourd'hui. Mmh. Si tout se passe bien, si on peut aller jusqu'au bout en faisant encore des victoires, ce sera parfait. Mais si on doit en rester là, je dirais si on reste en première division, ce qui est pas souhaitable aujourd'hui, puisque en fait on est quand même en première position, même si on n'a qu'un point d'avance. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y a 9 points à prendre, donc ça peut être Basso, Saint-Michel ou nous. Et j'irai malgré tout, même si la fin de saison sera un peu une déception, on aura quand même fait une très belle saison au regard de la saison dernière.
Deux observations également à faire, dans le sens où vous avez plutôt bien amorti cette descente en D1. Lorsqu'on voit vos deux autres concurrents qui sont également relégués, la couronne est roulée, ça se passe beaucoup moins bien pour eux. Et la deuxième observation, cette fin de saison va être passionnante, puisque vous jouez Saint-Michel ce week-end, donc avant l'enregistrement et après la diffusion. Et vous allez aussi jouer Basso sur la dernière journée, donc une saison hyper haletante.
Tout à fait, on reçoit Saint-Michel samedi, on va à l'ESSAC le week-end suivant.
Et en plus, vous allez à l'ESSAC qui est quatrième.
Voilà, et on reçoit Basso sur le dernier match. C'est-à-dire qu'on a un parcours quand même qui est costaud, on va dire, pour finir la saison.
Ouais, plus difficile que celui de Saint-Michel. Je m'excuse, Christian. Plus difficile que celui de Saint-Michel sur le tableau.
Je sais pas. Franchement, je veux dire, ils viennent chez nous, ils reçoivent Moutier, et après, je sais pas leur dernier match, ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils ont comme dernier match à faire. Plus difficile. Oui, peut-être. Oui, puisqu'on rencontre le deuxième et le troisième. Ils rencontrent
Saint-Michel va à Brie pour finir.
Ils vont à Brie, d'accord. Donc, Brie, ils ont la tête à la coupe. Ils n'ont rien à jouer. Mais,
ces adversaires, Pascal, vous les avez reçus. Vous avez eu un match aller. Ce match aller s'est soldé par quel résultat?
Saint-Michel, on perd. 3-2.
Je crois que vous
3-2. En fait, on menait 2-1 à la 90e minute et on prend 2 buts coup sur coup dans fin de match. Voilà.
Et puis Basso, c'était la première journée de championnat. Il me semble que c'était 1-0 pour vous, de mémoire, si je dis pas de bêtises.
Je sais plus si c'est 1-0 ou 2-1. On a gagné à Basso sur le premier championnat. Tout à fait.
Oui, Victor 2,
effectivement. On voit qu'il n'y a pas de différence entre les trois clubs, je dirais, en fait. On est tous les trois en haut du tableau et quand on se rend compte, ça joue à pas grand chose.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, par rapport à ce classement de D1, est-ce que les sacs pour vous, en perdant ce week-end contre Saint-Michel, a hypothéqué ces chances de monter? Et deuxième question, est-ce que vous croyez, moi, certains coachs de D1 m'ont parlé notamment du retour de Moutier, qui revient d'un peu du tableau vert. Est-ce que vous pensez que Moutier peut se mêler à la lutte?
Mathématiquement, je ne suis pas sûr. Il ne me semble pas. Je pense. Il reste 9 points, alors je ne sais pas combien ils sont, Moutier.
Ils ont 8 points de retard sur vous. Oui, donc effectivement, ils partent de loin.
Ouais, voilà. Après, on ne sait jamais, mais il faudrait qu'il y ait un gros accident. Et après, les sacs, c'est pareil. Je pense qu'ils ne doivent plus être trop dans le.
Oui, les sacs, il y a 9 points. Ils sont même fait dépasser par Moutier, ouais. Effectivement. Ouais.
Oui, mais voilà.
Je pense que ça doit se jouer entre Saint-Michel et vous, la montée, je pense.
Et Basso.
Ouais. Oui, je pense. Ah, mais après, attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tant que c'est pas fini, il n'y a rien de fait. Hein. Mais la fin de saison va être passionnante. Hein. Passionnante. Tous les week-ends, ça peut changer, quoi. Donc, c'est intéressant.
Et je reviens du coup à ma première observation du fait que vous ayez bien géré cette descente. Est-ce que c'est le fait finalement que le club de Champigny fasse un peu entre guillemets l'ascenseur entre l'appel, la R3 et la D1 depuis une dizaine d'années? C'est vrai qu'il y a eu peut-être 2-3 accessions et 2-3 descentes. Est-ce que c'est le fait finalement d'avoir l'habitude de faire l'ascenseur qui fait que vous avez bien géré cette descente par rapport à d'autres clubs qui sont montés mais qui n'étaient pas forcément des habitués de la R3 et qui sont redescendus et qui ont plus de difficultés cette saison?
Non, je pense pas, parce qu'il faut quand même bien savoir que la dernière fois quand on était descendu la fois d'avant, c'était dans les années 2000.
D'accord.
J'étais pas au club, ça doit être 2006, 2007, un truc comme ça. Donc c'était il y a longtemps. Oui, Champigny va en ligue, redescend, on fasse quelques années en ligue, on redescend. Après, je dirais, ça c'est un petit souci de structuration de l'effectif. Mais là, on verra si on remonte, on souhaite effectivement. Maintenant, si on remonte, on essaiera de faire le nécessaire pour y rester, tout en sachant que ça va être très compliqué. Avec toutes les réformes de poule qu'il y a jusqu'en 2025-2026, il faut savoir que tous les ans, il va y avoir 3 à 4 équipes qui redescendront de la ligue. en district et que j'irai les poules de l'année prochaine vont être constituées d'équipes de R2 qui vont finir 8 et 9e.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de descentes à tous les niveaux et donc ça va forcément rehausser les championnats. On aura beaucoup plus de relégués des divisions supérieures.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Donc je dirais, bah, déjà, vous avez 3 à 4 équipes par poule qui descendent de R3. Donc vous allez avoir que des équipes, on va dire, de milieu de tableau et de haut de tableau qui vont rester. Plus des équipes de on va dire dans le dernier tiers du tableau de R2 qui va se retrouver dans la poule. Avec des équipes de D1.
Ouais.
Donc ça va être je dirais, un gros championnat.
Bon, après, quand on voit le parcours des promus de l'an passé de la D1, donc c'est Saint-Arrex et Confolens. Donc Saint-Arrex est champion et puis Confolens et bon, ils luttent pour son maintien, mais je veux dire qu'ils sont encore en ballottage favorable. Ils ont leur destin entre leurs pieds. En tout cas, j'imagine que ça, c'est un parcours qui fait rêver pour la saison prochaine potentiellement.
Ah oui, bah, de toute façon, bien évidemment. Mais bon, je pense que le parcours de Saint-Arrex c'est assez exceptionnel et c'est pas fréquent que ça arrive, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis, vous, Champigny, donc vous avez un nouveau coach cette saison avec l'arrivée sur le banc d'Alex Joly. C'est oui. Un jeune coach qui a arrêté de jouer, donc il me semble, l'an dernier. Qu'est-ce qui vous apporte du coup au quotidien, Alex?
Eh bien, sa jeunesse. Sa jeunesse, ça. Je dirais son expérience en plus en tant que joueur jeune qui est. Si vous voulez, l'année dernière, quand avec Christian, on avait discuté, Alex avait donné 2-3 fois des coups de main sur les entraînements. On avait trouvé que c'était pas mal, que ça plaisait bien. C'est l'avenir des coachs, quoi. Ça change un peu. Ça change un peu. Et les gars ont adhéré et voilà. Ça permet d'avoir un effectif qui tourne bien.
Oui, et puis fait exceptionnel aussi. Enfin, cas unique et seul en Charente. D'ailleurs, votre équipe Fagnon est en D1 et votre équipe réserve est en D2, ce qui n'est pas le cas du coup des autres équipes de D1 qui n'ont pas une réserve en D2.
Oui.
Mis à part Merpin et Le Roy et l'Alliance Rouvée qui sont des réserves mais qui sont du coup en réserve en D1.
Tout à fait.
C'est intéressant, ça, j'imagine, pour vous d'avoir finalement deux équipes à Lyon avec une seule division assez proche.
Oui, mais je dirais que c'est intéressant dans la mesure où, en plus, si on veut se projeter sur la R3, hein, ça vaut mieux être en D2. Et puis, c'est un championnat qui est assez intéressant, la D2. Ça permet d'intéresser les joueurs. S'ils jouent pas en équipe première, ils jouent en équipe B, ils sont plutôt assidus.
Il y a pas mal d'échanges du coup entre les deux équipes.
Ah oui, puisqu'il faut savoir que l'équipe première a utilisé, alors je sais pas où aujourd'hui, mais c'était au mois de février, Alex me disait 34 joueurs.
D'accord, ok.
Donc c'est pas mal.
Les entraînements sont communs, Pascal?
Comment?
Les entraînements sont communs entre la A et la B?
Oui, les entraînements sont communs, oui.
Donc, je suppose que les schémas tactiques sont identiques.
Exactement. Tout à fait.
Tout en sachant que la B n'est pas tout à fait sauvée encore. Parce que s'il y a 4 descentes.
Ben ça, de toute façon, oui. Mais c'est le problème de beaucoup d'équipes dans beaucoup de divisions.
Oui.
Aussi bien en ligue qu'en district. Sur la poule de première div, de deuxième div, on sait toujours pas, je dirais, le nombre de descentes qu'il y aura réellement. Tout est encore possible.
Ça doit être compliqué quand même pour un président ou un coach quand on arrive comme ça à cette fin de saison et qu'on ne sait pas tout à fait ce que l'on va devenir et pour se projeter sur la saison par la suite, c'est aussi compliqué parce que s'il y a une montée, il va falloir regarder peut-être avoir des recrues. S'il y a une descente en D2, c'est toujours là c'est complètement différent depuis quelques années.
Oui, non, mais tout à fait. Mais ça va durer, je vous dis, jusqu'en 2025-2026, jusqu'à la fin de la transformation des poules de National et des poules de Ligue. Mais faut faire avec et puis on patiente et on prévoit. on prévoit différentes choses, mais bon, de toute façon, il faut être patient, il faut aller jusqu'au bout.
Et... Encore vous, Champier, ça va, parce que vous avez quand même un effectif, j'ai regardé un petit peu sur votre site qui est très intéressant, vous avez aussi des jeunes, et vous avez donc, comme le disait Christian, D2, D1, mais c'est pas le cas de toutes les équipes.
Oui, tout à fait.
On a Saint-Michel, il y a sûrement des problèmes s'ils montaient.
Ah, je sais pas. Après, mais je sais pas, est-ce qu'ils ont déjà, nous, on a une équipe U18-R2, on a une équipe U16-R2. Donc, il y a un vivier qui est présent, quoi.
C'est ça qui est intéressant.
D'ailleurs, la réforme des championnats, vous en pensez quoi dans votre position de président de club, on va dire, entre le niveau départemental et le niveau régional au final, parce que vous venez de la Ligue et vous aspirez à y retourner assez rapidement.
Je dirais que la réforme des championnats, c'est la Fédé qui l'a faite. C'est pas les départements ni la Ligue. Ça a été voté en assemblée à la fédération, donc c'est acté. Après, c'est ça la démocratie, mais maintenant, en termes d'amateur du football, ça nous arrange pas vraiment d'être sur le qui-vive pendant 4-5 ans, quoi.
Ben oui, c'est ça le problème.
C'est bien pour l'élite, ça resserre l'élite, mais c'est un peu moins bien pour les amateurs.
Oui, et puis de toute façon, le niveau... Les problèmes pour les clubs sont à tous les niveaux. Hein. Moi, je vois pour la CFC en National 2, on regarde un peu chaque week-end combien de points le points le 11e, le 12e. Pour la B de la CFC, je suis un peu chaque week-end en train de regarder les résultats des équipes de derrière, comme Cognac. C'est finalement, à notre échelle, on est un peu tous en train de regarder qui fait quoi chaque week-end.
Bien sûr. Exactement. Et puis bon, je dirais, même pour des clubs comme la CFC ou Cognac, ça pose des problèmes. Autre en termes de financiers, dans la mesure où eux, ils ont du personnel rétribué.
Oui.
Donc, et en fin de compte, je dirais, le resserrement de la nationale va faire ça leur coûter plus cher.
Oui, et puis c'est vrai qu'on demande aux clubs finalement de se professionnaliser et on met une plus grande incertitude sportive puisqu'il y a plus de descentes.
Voilà, c'est ça. Mais je dirais, en plus, demander aux clubs de se professionnaliser, c'est une chose, mais il faut prendre conscience que le sport amateur n'est pas professionnel et pourra pas l'être. On n'a pas de machine pour fabriquer les billets.
Tout à fait. C'est vrai qu'on parle souvent de cette notion d'une notion qui n'existe pas. Au final, on parle tout le temps de semi-pro. Mais au final, il n'y a pas de semi-pro. Soit on est amateur, soit on est professionnel.
Pour moi, oui. Je dirais, à partir du moment où il y a de l'argent, c'est des pros, c'est tout. Quand on parle semi-pro, c'est parce que c'est des gens qui sont rémunérés avec des contrats ou un peu moins bien payés, ou ouais. Mais bon, ça reste quand même de l'argent, quoi. Je pense que il y a des clubs aujourd'hui, on le voit de toute façon dans le sport charentais, on le voit vraiment bien, hein. Il y a des clubs qui ont des soucis financiers à cause de ça.
Ouais. D'ailleurs, vous, par rapport au fait que la Ligue, que ce soit plus la Ligue du Centre-Ouest, pardon, mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire que désormais les équipes charentaises, elles peuvent aller en Dordogne ou elles peuvent aller en Gironde, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça a augmenté finalement ce niveau de Régional 3 ou de PL?
Alors oui, tout à fait. Moi, nous personnellement, on était sur le pool orienté vers la Gironde.
Oui.
On a passé 3 ans, une année de Covid, plus les 2 autres années. La première année de Covid a fini au mois de mars. Donc, chez celle-ci, on a presque fait une année. La deuxième année, elle a quasiment pas existé. La troisième année, je dirais, on l'a fait sur les équipes, effectivement, axées du côté de la Gironde. C'était une volonté, hein. C'est par rapport à la circulation. On est plus vite rendu sur Bordeaux que sur Brive, par exemple. Et puis c'est aussi parce que on souhaitait aller sur des bons terrains, entre guillemets.
Oui, et puis c'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'être sur des bons terrains et de se confronter à des belles équipes.
Voilà, tout à fait. Après, c'est présomptueux.
Et puis aussi de varier un peu les déplacements, d'aller dans des coins qu'on connaît pas forcément, plutôt que d'être dans cette poule de PL où on est si charentais et si maritime, et aussi finalement on fait les mêmes déplacements chaque année.
L'année dernière, on avait quand même pas mal d'équipes charentaises dans la poule. Hein.
Oui, vous étiez avec Roulé la Couronne, c'est ça?
Oui, il y avait Roulé la Couronne.
Vindel aussi peut-être.
Oui, il y avait Vindel et Soyo, je crois.
Oui, oui. Hein,
de mémoire, si je me trompe pas.
Donc ça faisait pas mal de derby.
Oui, oui, non, mais tout à fait, c'était pas mal. Mais c'est, ça reste sympa, hein, je dirais, d'avoir des, quelques derbies dans la poule. Après, bon, il faut, je dirais, pas avoir que ça, quoi. Sinon, ça sert pas à grand chose d'aller en ligue.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, bah, pour Alex Joly, votre entraîneur, j'imagine que c'est une saison particulière aussi, parce que dès son premier match, il a joué contre Basso qui est entraîné par Eric Joly, donc son père. Comment il a vécu ce duel, pas fratricide, parce que du coup c'était père et fils, mais ce duel familial, comment il l'a vécu? Puis est-ce que vous avez un peu des échos sur parce qu'ils sont en plus, ils sont à la lutte pour monter, donc est-ce que ça se chambre pas mal? Enfin, quel est un peu votre regard, vous, là-dessus?
Non, il ne se chambre pas, c'est je pense qu'Eric est bienveillant envers son fils et que son fils, lui, je dirais aujourd'hui, est concentré sur son effectif à lui, et il ne s'occupe pas trop de savoir ce qui se passe autour. Donc après, voilà, je dirais, c'est en fait Alex, c'est un amoureux du foot et c'est un peu un perfectionniste.
D'accord.
Donc il soucie essentiellement de sa composition.
Oui, je vois souvent Eric, hein, parce qu'il habite à Yersac. Je vois très souvent Eric. Il était entraîneur à Aigre quand il est parti de Yersac. Il a été à Revel, je crois, ou après il a été à Aigre, parce qu'il vient de Aigre, Eric Joly.
Non, avant Aigre, il était à Champigny.
Ou à Champigny, voilà. Je savais qu'il avait été à Champigny. Quand il est parti de Yersac, je crois.
Voilà, c'est ça. Il a fait Champigny, après il était à Aigre.
Alors moi, je discute souvent avec le papa. Je connais moins Alex, mais je connais bien le papa. Et c'est vrai ce que vous dites, Pascal. Le papa, c'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup de football. Non. Enfin, moi, je parle très souvent avec lui. Et le lundi matin, surtout à Yersac, quand on va au bureau de tabac chercher son journal. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui me parle très peu de football, Eric. Mm-hmm. On se comprend un petit peu avec son fils. Je sais pas s'ils parlent vraiment de football entre eux.
Bon, ils doivent en parler un petit peu, mais je pense que c'est pas leur.
Non.
Pas vraiment le. Je pense que c'est leur sujet de conversation principal.
Ouais, je crois aussi, Pascal. Je crois aussi. Dans tous les cas, pour la saison prochaine, parce que déjà, bon, là, vous êtes dans le championnat. Moi, j'espère que vous allez monter, hein, comme voilà, tous ceux qui aiment Champigny et même ceux qui sont autour. Mais j'espère que pour cette année, déjà, regardez. Est-ce que vous regardez déjà le recrutement pour la saison passée et est-ce que Alex, lui, il a aussi un regard sur quelques joueurs qui seraient susceptibles de venir?
Alors, je dirais, c'est en fait, voilà, c'est ce que j'explique même à tout le monde quand on m'en parle. Moi, je recrute personne. C'est les coachs qui s'occupent de ça.
D'accord.
Donc, oui, Alex est déjà en train de regarder un peu qui est susceptible de venir. On a déjà vu quelques joueurs qui sont passés nous voir à l'entraînement. Donc voilà. Mais après, tout va se finaliser après les championnats.
Oui, parce que c'est vrai que là, on est encore dans l'incertitude totale. Et c'est vrai que de repartir en D1 et de repartir en R3, c'est pas du tout la même chose.
Tout à fait. C'est déjà sur un effectif, il faut déjà voir quels sont les joueurs qui vont rester, quels sont ceux qui vont partir. Je dirais entre ceux qui sont en études à droite, à gauche, ceux qui travaillent, ceux qui veulent pas forcément rester au club, qui ont envie de changer. Ça bouge toujours, hein, le club. Mais sur un ensemble général, je pense qu'on va pas un effectif qui bouge de trop. Mais ouais. On prendra quelques recrues, bien sûr.
Et puis j'imagine qu'en début de saison, forcément, l'objectif c'était de remonter, mais finalement il y a assez peu de promus qui remontent directement. Donc si c'est le cas, si c'est votre cas, et c'est ce qu'on vous souhaite, hein, comme on le souhaite aussi à Saint-Michel et à Basso, bien sûr, ce serait un petit exploit quand même de remonter directement, de faire l'ascenseur, mais dans le bon sens cette fois.
Alors non, l'objectif en début de saison n'était pas de remonter.
D'accord, ok.
Il était justement de
d'amortir la descente et de faire un bon championnat.
Voilà, et de, pour pouvoir venir. Et après, je dirais, c'est au fur et à mesure de la saison, effectivement, quand les objectifs peuvent changer. Mais en début de saison, non, c'était pas du tout l'objectif, quoi.
D'accord, parce qu'en fait, vous êtes parti. Vous avez toujours été dans le top 3, en plus, hein.
Oui, ou pas très loin, je dirais. Mmh. Mais le truc, il est qu'on changeait de coach. On a eu plein de nouveaux joueurs, quelques nouveaux joueurs. Il fallait que tout le monde. Quand vous changez d'entraîneur et vous avez des nouveaux joueurs, il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Donc, on peut pas savoir en début de saison si ça va prendre, si ça va prendre. Dans les recrues, des fois, ben, on voit que les gens sont bien, et puis, on les voit sur les matchs amicaux, c'est bien, c'est un bon truc, et puis bon, après, quand le championnat démarre, ça part dans tous les sens, et ça fonctionne pas. Et ça, c'est pour tous les clubs, hein, je pense. Donc, on peut pas prétendre, je dirais, en plus, vu la saison dernière qu'on avait fait, on pouvait pas prétendre remonter directement, en arrivant en première div, faut déjà se réadapter, à la première division et puis voir venir et après bah selon les circonstances à viser quoi. Voilà.
Ouais, d'autant plus que il y a cette défaite à Moutier, donc ça c'est, on est à la deuxième journée de championnat et donc c'est vrai que bah entre guillemets ça remet vite entre guillemets les pieds sur terre même si vous les aviez, mais en tout cas ça indique que ce niveau de D1 il est compliqué et c'est un championnat assez homogène et assez équilibré.
Ah oui, il faut, je dirais, en plus, bon, il y a certains matchs où on doit prendre un peu plus de points, d'autres où on a appris, où on aurait peut-être pas forcément dû les prendre. Donc, c'est une saison, je l'ai toujours dit, une saison, c'est pas beaucoup de matchs puisque c'est que 22 matchs, mais c'est long. C'est long. C'est, à certaines périodes de la saison, vos joueurs, ils vont être meilleurs qu'à d'autres. Pourquoi ça va bien se passer? Ben, il suffit juste que le but, il rentre au bon moment et puis ça permet de faciliter le match. Si vous frappez les poteaux et les barres transversales, bah, même si vous avez l'impression de pouvoir dominer le match, vous n'êtes pas à la merci de vous faire prendre un contre, ce qui arrive. Hein. Et puis c'est le foot, c'est comme ça. Si on veut pas, on joue pas.
Au final, le maître mot, c'est la régularité dans ce marathon.
Dans le championnat, oui, c'est ça, tout à fait. Mmh. C'est d'être régulier et performant le plus possible. Et je dirais, c'est ceux qui seront plus réguliers et plus performants qui arriveront au bout. Mais comme tous les championnats.
Ouais. Pour l'instant, vous l'êtes puisque vous êtes l'équipe avec le moins de défaites. Seulement 3 défaites en 19 matchs.
Oui, mais ça. Oui. Mais bon, après, je dirais, on est quand même pas très loin. Quand je vois Saint-Michel à un point derrière.
Oui.
Au bout de 19 matchs et Basso à 3 points derrière au bout de 19 matchs, ça veut bien dire que c'est un vrai championnat, quoi. Ça va être jusqu'au bout. C'est des bonnes équipes et qu'ils sont présents et on est présents aussi et tant mieux pour nous.
Et d'ailleurs, alors le fait finalement de terminer ce championnat par vos concurrents directs, hein, Saint-Michel ce week-end, Basso à la dernière journée, c'est plutôt pour vous une bonne chose dans le sens où bon, au moins voilà, il y aura pas besoin d'aller regarder un peu ce que font les autres équipes sur les autres terrains. Ce sera contre vous et vous les aurez devant les yeux. Ou au final, vous auriez préféré terminer par des matchs, peut-être face à des équipes qui sont au milieu de tableau et qui n'auront plus forcément grand chose à jouer.
Honnêtement, je sais pas, non. Je pense que déjà le fait que ce soit des équipes d'autres tableaux, ça peut-être permet de faire des beaux matchs à la maison et puis qu'il y ait du monde, qu'il y ait des supporters, que ça fasse des belles soirées. Et après, c'est vrai, si on a eu des équipes qui n'avaient plus rien à jouer, bon. Enfin, ils ont peut-être joué libérés, c'était aussi compliqué à jouer malgré tout. Donc, bon, l'un dans l'autre, ça permet que les joueurs soient tous assidus et motivés jusqu'à la fin.
Mmh. En tout cas, c'est vrai que là, vous préparez deux beaux matchs à la maison, que ce soit Saint-Michel ou surtout Basso, qui pourrait être une finale grande nature à la fin du mois de mai. Il y a un beau mois de mai en tout cas en perspective sur votre terrain. Après, bon, les résultats seront ce qu'ils seront, mais en tout cas sur le papier, c'est très alléchant.
Exactement.
Vous écoutez Attitude 98.3 90.7, c'est votre radio en Charente, www.attitudefm.com aussi. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Pascal Crène qui répond aux questions de Dédé et de Christian.
Oui, donc et par rapport à votre équipe réserve, déjà je salue Mickaël qui m'envoie toujours ses votes et qui me répond assez rapidement quand j'ai besoin de lui. Votre équipe réserve, elle est tombée dans une poule, j'ai envie de dire vraiment hétérogène. On a des équipes qui sont vraiment en galère en fin de classement, et puis il y a des équipes comme Linard, comme Jarnac ou comme Grande Champagne qui sont en haut de tableau et qui marquent beaucoup de buts. Donc au final, c'est un peu sur les deux extrêmes par rapport à votre B, et c'est chaque week-end des confrontations complètement différentes.
Oui, tout à fait. En plus, pour nous, c'est une équipe B, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a 34 joueurs qui ont joué en première.
Oui.
Donc l'équipe B, elle souffre en fin de compte de son effectif par rapport à l'effectif première. Et les week-ends, un très bon effectif. Les autres week-ends, c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais bon, après, je dirais, il y a effectivement 3-4 équipes qui sont au haut du tableau. Saint-Séverin Palois aussi.
Oui, tout à fait.
Ouais, elle est tranquille. Et après, on est effectivement, il y a 6 équipes qui, enfin, hormis Châteauneuf et Chazelles qui sont dans la charrette. Il y a 5 équipes en fait qui se tiennent dans l'espace de 4.
Oui, c'est vrai qu'on peut dire d'ailleurs que votre réserve, elle est première du deuxième championnat.
Ouais, un peu ça, ouais. Avec un point d'avance seulement sur Nersac.
Oui.
Donc, ça m'a soulagé, j'avais cru pas entendre Nersac dans cette émission, mais j'ai entendu Nersac quand même.
Et si, ils sont là.
Oui, mais je suis Nersac, c'est pour ça que je le dis, Pascal. J'ai été voir Nersac Saint-Brice, j'ai pas trouvé un très beau match, mais bon.
Eh bien, notre équipe B va jouer à Nersac samedi prochain.
Ah bien, je serai peut-être présent alors.
Voilà. Moi, je serai à Champigny parce qu'il y a Saint-Michel qui vient à Champigny.
Ouais, Nersac qui a besoin de points.
Bon, je pense que toutes les équipes ont besoin de points en ce moment.
Oui, c'est vrai aussi.
On soit haut, parfois en bas.
Tout est relatif, parce que je dirais s'il y a qu'une seule descente de ligue, les descentes de la deuxième division sont faites.
Oui, mais c'est que deux descentes, on est deux, non, si je ne me trompe pas.
Ben, s'il y a qu'une descente de ligue, oui.
D'accord.
Autrement?
Après, ça dépend du nombre de descentes qu'il va y avoir.
Si par exemple, il y a une deuxième descente de R3, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr, ça rajouterait le moins bon dixième des deux poules, c'est ça?
Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça en rajoute. Non. C'est une bêtise. S'il n'y a qu'une descente, il n'y a que 3 équipes de deuxième div qui descendent.
Ah, quand même. Donc,
en fait, s'il y a 2 descentes de ligue, il n'y a que 2 équipes qui descendent. Par poule.
D'accord, ok.
En J3, c'est 3 pour les deux poules.
Oui, bien sûr, tout à fait. Donc le dernier et le moins bon 11e.
Voilà, c'est ça.
Et si donc s'il y a une descente supplémentaire, on prend les deux derniers de chaque poule cette fois-ci.
C'est ça, tout à fait.
Oui, donc ça vous fait quand même 10 points d'avance sur l'avant-dernier. Donc,
S'il y a 3 descentes, il y en a un de plus, ainsi de suite, toi.
Oui, tout à fait. D'accord. Bon, après, ça se passe donc, plutôt bien en R3, fait, là.
Mais sur les R3, il y a quand même quelques pareil, qui sont pas sauvés, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a Confolon qui n'a pas sauvé, La Roche-Rivière n'est pas sauvé, puis Moyen non plus, et puis Ruel.
Aujourd'hui, je dirais il y a que Ruel qui descendrait, mais Ruel peut encore se maintenir. Et alors après, pour qu'ils se maintiennent, il faut qu'ils fassent 3 résultats.
Ah, je pense que quand même dans leur poule, il y aura minimum un Charentais qui descendra.
Voilà. Mais après, bon, je dirais, c'est le même problème dans les poules de R3 que ce qu'on rencontre dans les poules de deuxième div et de première div, à savoir que comme ils ont entre 3 et 4 descentes par poule,
oui.
Ils savent pas. Ça va. Il y en a encore pour au moins une à deux semaines avant que ça se définisse complètement.
Oui, et puis en plus, quand il y a des mois en bon 9e, faut regarder toutes les autres poules, le nombre de points, c'est assez facile.
Oui, c'est.
J'imagine que vous, dirigeants, vous avez le nez dans les classements tous les week-ends à la fin le dimanche soir, c'est classement, classement, classement.
Ouais, oui, mais c'est pas une obsession, je dirais, parce qu'on sait que de toute façon, ça peut changer d'un week-end sur l'autre.
Oui, oui.
Donc, il faut être patient. Faut être patient. Après, bon, on est pas trop mal classé, même en deuxième division, malgré tout. Même si on n'est pas formellement maintenu, dans la mesure où il y a encore 3 matchs.
Mais je pense que ça devrait le faire.
Voilà, on est en ballotage favorable.
Oui, je pense aussi.
Voilà.
Est-ce que l'on peut parler également, Pascal, de la jeunesse? Parce que, et toi, le sportif de Champigny, c'est aussi la jeunesse. Je suppose qu'il y a une école de football.
Combien de licenciés? Alors, Champigny, le club globalement, en intégralité, c'est 268 licenciés aujourd'hui.
D'accord.
Oui. Donc, dans les 268 licenciés, il faut savoir qu'on a un peu plus de 30 de dirigeants. On a 5 éducateurs. Je vais vite fait sur le foot club pour vous donner des précisions. On a 5 éducateurs qui sont diplômés. On a donc une équipe U18 en régional 2, une équipe U16 en régional 2, une équipe U15 en district, deux équipes U13, deux équipes U11, et on a une école de foot avec des débutants de U6 à U9. Donc eux, il y en a foot d'animation. Donc si j'enlève les 11, une quarantaine de
sections féminines, c'est ça.
Non, on n'a pas de section féminine. Et aujourd'hui, je dirais, on n'a que 3 filles en école de foot. Donc, pour créer une section féminine, il faut commencer par les petites. Parce que si vous commencez par les adultes, vous n'avez pas de réserve derrière.
Oui, c'est vrai. Oui.
On a eu à une époque une équipe féminine. Mais après, on avait pas assez de petites en école de foot pour perdurer.
C'est quelque chose vers lequel vous allez tendre, ou c'est le constat, c'est qu'il n'y a pas de matière première.
Si ça doit se faire, ça se fera naturellement avec la présence d'enfants à l'école de foot. Et si on développe pas, si on veut développer une section féministe, c'est par l'école de foot qu'il faut que ça commence.
Oui.
Ça c'est impératif.
C'est ce qu'ils font, Pascal, du côté de Linard-Fléac.
Ouais.
J'y vais le mercredi après-midi, de temps en temps j'y vais, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes de 6, 7 ans, 8 ans.
Mais ils ont raison, parce qu'en fin de compte, il n'y a que comme ça qu'il faut faire. Ouais. Parce que si vous partez avec des seniors d'entrée, vous vous retrouvez vite avec des manques de joueurs. Et c'est pas forcément viable, je pense. Pour moi, c'est pas viable. C'est éphémère. C'est-à-dire que ça durera pas. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, si on doit refaire des filles, ce sera par le fait qu'il y ait une école de foot féminine, que les filles soient l'école de foot. Parce qu'on apprendra à différencier les filles des garçons. Donc les champions, c'est les champions. Qu'il y ait des filles ou qu'il n'y en ait pas, ce sera toujours les champions.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, c'est ça. Donc cette année, on avait 4 licenciées féminines. Donc l'année prochaine, on aura peut-être 8. Hein,
ah ben oui, puis après, on souhaite d'en avoir 16, histoire que ça puisse augmenter petit à petit. Puis généralement, les filles, les petites filles, elles en parlent à leurs copines et ça les intéresse parfois.
Exactement. Mais c'est ça, je dirais, c'est une façon. Les enfants, c'est entre copains qui viennent au foot.
Bah, donc, tout à fait, ouais.
Les filles, s'il y en a quelques-unes qui viennent, elles vont amener leurs copines et automatiquement ça fera boule de neige. Mais après, on va pas créer un club féminin pour autant, quoi. Les filles sont intégrées dans le club de Champigny.
Oui,
et on aura des féminines si on a suffisamment de filles.
Où est placé Champigny? C'est vrai que vous n'êtes pas loin d'Angoulême, il y a 5-6 km, vous n'êtes pas loin de Brille, La Rochefoucauld. Les joueurs, ils viennent un petit peu de ces localités, non?
Oui. On en a qui sont, ça habite un peu partout, sur Champigny, autour de Champigny, autour d'Angoulême. Ouais, tout à fait. Même La Rochefoucauld, dans les jeunes, il y a quelques jeunes qui viennent du coin de La Rochefoucauld. Exactement. Mais bon, ça a toujours été, je dirais, c'est comme on a nous des joueurs de Champigny qui jouent dans les clubs autour aussi.
Bien sûr, oui, bien sûr. Mais le Grand Angoulême vous apporte quand même des joueurs
Oui, on a un peu, oui. Oui, tout à fait. Oui, on a quand même. Puis bon, on a même des anciens joueurs, enfin, des jeunes qui étaient à Champigny avant, qui aujourd'hui habitent sur Angoulême. Leurs parents sont à Champigny, mais eux, ils habitent sur Angoulême. C'est, je dirais, c'est logique. En fait, on est dans un bassin de vie, donc ça, les gens bougent. Hein. On n'est pas tout seul au milieu de la campagne.
Oui.
Donc,
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que à la fois vous avez une B en D2, comme on le disait, et puis oui, la première en D1. Et ce qui est intéressant, c'est que vos jeunes de ligue, enfin vos jeunes qui sont en R2, potentiellement, et avec la B, ça leur fait déjà un niveau très intéressant pour découvrir le monde senior.
Exactement. Il y a quelques-uns qui ont déjà fait des piges cette année,
oui.
même en équipe première.
C'est quoi à peu près d'ailleurs la moyenne d'âge de l'équipe réserve, grosso modo, même si je sais que ça change tous les week-ends?
Alors, je pense que le week-end dernier, elle était à 30 balais.
Ah oui, d'accord.
Alors, il y a des week-ends, elle doit être à 23, 24.
Bon, c'est bien, c'est bien.
Au final, ça doit, celui qui se casse sa tête tous les week-ends, c'est le coach, non?
Un peu, ouais.
Parce qu'un coup, j'imagine qu'il doit composer avec beaucoup de défenseurs, un coup avec beaucoup plus de joueurs offensifs. C'est une adaptation en perpétuel, en fait.
C'est ça.
Mais c'est un poste intéressant, par contre, j'imagine. On fait preuve de flexibilité, donc c'est hyper intéressant.
Oui. Et puis, c'est pas mal. Ça va, ça se passe bien. Surtout, Michael voulait pas spécialement coacher à la base. Il a pris l'équipe B puisqu'on a trouvé personne l'année dernière pour la prendre.
D'accord. C'est sa première saison là en B ou c'est sa deuxième saison du coup?
En termes de coach, c'est sa première saison, mais c'est sa première et sa dernière.
D'accord, ok.
L'année prochaine, il retourne sur le terrain. Donc, mais bon, là, on a des coachs en vue.
D'accord. Bon, en tout cas, pour une première expérience, ça se passe plutôt bien.
Oui, mais...
Il est entraîneur-joueur ou il est simplement entraîneur?
Il a joué quelques bouts de match, mais il est plutôt entraîneur, quoi. Il a pas beaucoup joué.
Bon, mais j'imagine que du coup, les crampons et le terrain doivent lui manquer.
Exactement.
Et puis ça fera un jour de plus, du coup, pour le futur coach de la biche, dans ce cas-là.
Ouais, c'est ça. Ça en fera un de plus. Mais je pense que l'effectif sera assez intéressant l'année prochaine.
Ah, ça veut dire quoi?
Bah, entre les joueurs qui restent et les jeunes qui montent, veulent l'effectif de la B pour le futur coach, ça peut être sympa.
Oui, c'est ce que je pense Christian et moi-même on a notamment regardé. Oui, quand on voit les résultats, quand on voit les D1, D2, et ensuite vous avez des jeunes. C'est vrai que vous pouvez voir l'avenir, je dirais pas en rose, mais voir un petit peu plus loin et peut-être tenir, pas comme vous l'avez fait la saison passée à R3, avec plusieurs, pourquoi pas la R2 plus tard.
Bon, ça va être chaleureux avant les bœufs, mais bon.
Oui, non, mais... avec la jeunesse, peut-être, c'est peut-être l'objectif dans un temps futur.
Oui, mais avec, je dirais, faut avec la jeunesse, plus avec l'effectif que l'on a, faut savoir que nos joueurs en première, je pense qu'on doit avoir une moyenne d'âge par moment dans la saison où elle doit être assez basse aussi, on doit être sur les 23-24 ans, quoi.
Ouais, mais c'est bien, ça c'est bien.
Et on doit avoir dans l'équipe, je dirais, il y a 2-3 joueurs de plus de 30 ans, il y a quelques-uns qui sont pas loin de la trentaine, mais après on a beaucoup plus jeunes, quoi.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'Alex a vraiment mis les bases, remis des fondations, et ce qui fait que autant votre effectif avait beaucoup changé l'été dernier, autant il devrait relativement peu changer et vraiment être sur la continuité la saison prochaine.
Oui, je pense. Après, je peux pas.
A priori. Hein.
Oui, normalement, oui, mais honnêtement, il faut qu'on a. On verra tout ça après le championnat au mois de juin. Mais oui, je pense que ça va tourner à peu près dans les mêmes zones, avec quelques nouveaux joueurs.
Je pense que ce qu'on voulait dire, c'est que avec cette jeunesse-là, c'est vrai que quand on a l'habitude de se côtoyer, évidemment, les résultats sont largement différents que si tous les ans il y a un changement ou il y a un turnover de joueurs. C'était ça un petit peu notre question.
Oh, bah après, ça veut rien dire. Hein. Tu sais, en National 2, il y a des ouais. clubs qui changent 15 joueurs par saison et ils font toujours top 5, top 6 de l'année. Hein.
C'est ouais,
comme le disait le président préalablement, finalement, c'est la mayonnaise si elle prend rapidement.
Ouais, mais ce que je voulais dire, moi, Christian, c'est. Et dans le but, c'est quand même que des bénévoles qui sont sur le terrain. Alors, National 2, c'est quand même complètement différent. C'était ce que je pensais.
Oui, mais c'est vrai que malgré tout, ça reste... Je suis en district ou je suis en national ou je dirais même plus haut. À mon avis, il y a quand même une part d'entente entre les gens qui est importante.
Tout à fait.
Et si on a un but commun, et si tout le monde tient dans le même sens, c'est toujours plus facile que... Si ça part dans tous les sens.
Tout à fait. Après, c'est aussi que c'est intéressant le travail qu'a fait Alex, c'est qu'il a vraiment su remodeler un effectif qui est performant et qui finalement. Alors la fin de saison sera ce qu'elle sera, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous aurez fait une belle saison quoi qu'il arrive.
Bien sûr.
Exactement. Mais je pense surtout que c'est un garçon qui aime tellement le foot et qui voit tellement bien les choses qu'il peut pas se tromper.
Ouais, et lui d'ailleurs, il a vraiment fait la transition maintenant, il a plus du tout envie de rejouer.
Ah non, mais il avait pas du tout envie de continuer à jouer, c'est pour ça. En fait, il est jeune, mais il avait passé le cap du terrain. Il voulait entraîner plus.
Ouais, c'est bien ça par contre de lui avoir donné sa chance parce que c'est pas tous les présidents qui feraient confiance finalement à un jeune qui débute.
Bien sûr. Ah, c'est sûr. Surtout que bon, après tout le monde n'était pas. J'ai entendu des choses qui aujourd'hui on n'entend plus, mais c'est normal. Après, je dirais, c'est le problème, c'est qu'on prend toujours des risques, mais je.
Bien sûr, c'est normal. C'est normal, c'est normal.
Un coach connu, ou l'ancien jeune, il y a toujours des risques. Mais après, oui, effectivement, mais bon, je connaissais ses qualités. Ses qualités, et puis, avec Christian Soumagne, qu'on avait en coach l'année dernière, on avait discuté tous les deux bien avant, et il lui avait fait faire des séances d'entraînement sur l'effectif, et il m'a conforté dans mon point de vue.
Oui, puisqu'il a. Ce qui est intéressant dans votre cas, finalement, c'est que c'est une promotion interne.
Voilà, c'est ça.
Donc finalement, c'est un profil que vous connaissiez déjà et qui avait déjà bu du coup bosser avec l'ancien coach.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et puis bon, en plus, c'est quelqu'un que je connais très bien et je savais très bien qu'il pouvait le foot, quoi. Il est fait pour ça.
Ouais. Et d'ailleurs, on a parlé du championnat, mais là, ça avait donné quoi vos aventures en coupe du coup avec un S cette saison.
À la Coupe de France, on a dû faire deux tours.
Ouais.
On est sorti de la Coupe. Alors attendez, la Coupe de France, on était à Saint-Victurien, et puis après, on est je crois qu'on est allé à Saint-Palais. On est sorti à Saint-Palais.
Saint-Palais, Charente-Maritime, du coup R3.
Oui.
Ah, il est pas facile.
Non, c'était pas simple. Et puis, on
est mort. Saint-Victorien, c'est en rugby, non ?
Oui, mais bon, Saint-Victorien, c'est une. On va dire, c'est une modalité, mais le problème de ces matchs, c'est la deuxième fois en quelques années qu'on les rencontre. Le problème de ces matchs-là, c'est de pas avoir de blessés parce qu'ils ont un terrain qui est au mois d'août dans un état de sécheresse très avancé. Et quand les joueurs courent, il y a la poussière qui ciel. Hein.
Ouais, c'est pourri. Ouais. Enfin, excusez-moi.
Non, mais après, bon, moi, je dirais pas ça comme ça. Je dirais c'est.
Non, non, mais je.
Les communes n'ont pas forcément les moyens de
tenir
le terrain en bon état. Et je dirais le but du jeu, sur ces matchs-là, le but du jeu, c'est essayer de marquer très vite pour être tranquille, quoi.
Ouais, tout à fait.
Le mot que je viens de citer, c'était un mot charmantais, hein, c'était pas, voilà.
Ouais.
C'est du patron.
Oui, continuez du coup.
En Gambardella, en Coupe Aquitaine, on a battu Urbel et après je sais pas où on est allé. On a fait deux tours de Coupe Aquitaine.
D'accord.
Même plus on a fait le deuxième tour.
D'ailleurs la Coupe, dans vos années de présidence, est-ce qu'il y a eu des parcours, est-ce que vous avez réussi notamment à avoir ces fameux maillots tant prisés par tous les clubs?
Non, jamais. Jamais, mais je dirais ça viendra peut-être.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la coupe, c'est aussi le tirage au sort est hyper important.
Tirage au sort, et puis bon, si c'est plaisant. En fait, si vous voulez, cette année, on a mis à part un match de coupe réserve, on a même pas reçu un match de coupe chez nous, quoi. Et la coupe Charente, on est rentré. Alors, je sais plus contre qui on est sorti, contre qui t'es. Je dirais une bêtise, mais c'est beau réfléchir, ça me revient pas. Et après, en coupe Charente, on a joué à Brive, on a perdu de 1 à Brive. Voilà. Donc, sinon, on serait peut-être encore en coupe Charente.
Bah oui, puisque là, vous êtes tombé contre le futur finaliste et tête vainqueur, ça, on le saura dans quelques semaines.
C'est possible. Mais il y a lui, il y a eux, et puis, qui c'est l'autre club?
Linard.
Oui, Linard, voilà. Ouais.
Ouais. D'ailleurs, les derbies Champigny-Brie, c'est chaud ou ça reste quand même bon esprit? C'est vraiment le derby, c'est vraiment le derby le plus important là contre Brie?
Non, en plus avec Michel Gaudier, on s'entend super bien. Donc après, c'est des derbies sur le terrain, c'est normal. Mais on peut pas dire qu'il y a animosité ou chose dans le genre. C'est pas un souci, ça. Non, c'est des gens avec qui on s'entend relativement bien. Et puis, on n'a pas de problème avec lui là-dessus. On n'est pas. Après, c'est normal que les joueurs sur le terrain, ils veulent gagner, quoi. Mais c'est pas spécifique au derby, hein. C'est tous les matchs.
Bien sûr. Et puis, il valait mieux perdre contre Brie en Coupe de Charente. Et si vous les battez en championnat, ça vous permettra peut-être de monter. Donc au final, tout le monde sera content.
Mais on les a battus en championnat déjà. Ouais. On a plus à jouer contre eux.
Sur les étagères de Champigny, il n'y a pas une coupe du district.
Même si j'ai, si, il y en a des coupes du district.
Ah, ben voilà.
Mais elles sont vieilles. Elles datent de longtemps.
Ah, vous voulez dire qu'elles prennent un peu la poussière?
Non, parce qu'on les dépoussière de temps en temps, mais.
Non, il faudrait du renouveau, quoi.
Oui, ce serait bien d'y arriver. Mais souvent, après, c'est pas la priorité, on va dire.
Non, je sais bien.
Pas la priorité du club, ça peut être la priorité des joueurs, par contre. Et puis là, en coupe de réserve, l'équipe C est allée jusqu'à la demi-finale à Beigne, et puis elle a perdu à Beigne, donc voilà. Mais c'est pas. Les coupes, c'est vrai que quelque part, c'est plus pour les joueurs que pour le club. Ouais. Même si la coupe Charente, si on l'a gagnée, on serait content aussi. C'est pareil, mais je dirais la priorité du club, c'est quand même les championnats.
Bah oui, tout à fait, parce que c'est votre pain quotidien, et puis la coupe, c'est une aventure de joueur, et puis l'appétit, on sait quand on commence, mais on sait jamais où ça va se terminer, donc au final, c'est l'appétit vient en mangeant, j'ai envie de dire.
Tout à fait. Et après, quand on parle de Coupe de France ou Coupe Aquitaine,
oui.
Par contre, je dirais là, il faut quand même. Alors, je pense qu'on laisse beaucoup, les équipes laissent beaucoup d'influx et ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. C'est quand on va loin dans ces coupes-là, ça peut être compliqué pour le restant du championnat.
Bon, surtout qu'en plus, elles se jouent. Les premiers tours, c'est direct dès le mois d'août. Donc au final, on est en pleine prépa et c'est un peu des matchs amicaux, mais c'est des matchs amicaux sans vraiment les être, sans vraiment l'être, c'est un peu bizarre, non?
Oui, tout à fait. C'est des matchs amicaux relevés, quoi, qui permettent de rentrer dans le vif du sujet.
Ouais.
Mais ça reste. Après, c'est vrai que ça serait bien d'aller chercher les maillots un peu de temps en temps. Mais. Et puis ça permet d'avoir des matchs jusqu'au mois de décembre, à peu près toutes les semaines, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que quand on a des coupures, c'est compliqué d'aller chercher un match amical. Ou alors, du coup, le coach est contraint et forcé de laisser un peu son effectif en repos. Et ça coupe parfois le rythme.
Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est un peu le problème, quoi. Je dirais, il faut jouer en début de saison, il faut jouer toutes les semaines pour prendre le rythme, pour se lancer pour le championnat. Et si on n'a pas les coupes, il faut trouver les matchs micro, quoi. Donc, c'est mieux d'avoir les coupes.
98.3, 90.7, ce sont les fréquences de votre radio, Radio Attitude, www.attitudefm.com. C'est le site internet pour pouvoir nous contacter. Vous écoutez Culture Sport, notre émission, chaque lundi 19h-20h30. Merci de votre fidélité. Nous accueillons Pascal Crène, président de l'AS Champigny, qui répond aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous.
Oui, une petite question, mais qui est d'importance. Je suppose qu'il y a quand on a un certain nombre de licenciés comme vous l'avez, il y a certainement des sponsors. Il y a des gros sponsors, non, qui vous aident?
Oui, on a un peu. Oui. Ben, on a une trentaine de sponsors.
Bon, on peut en citer quelques-uns ou
pas? Ah ben volontiers. Donc on a le magasin Eco Cuisine sur la zone de Champigny. On a l'entreprise 16h33. On a le Crédit Mutuel, l'entreprise Classarc, le Crédit Agricole. On a MGC Façadier sur MGC Façade. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'entreprise 3L qui nous suit aussi régulièrement tous les ans. Les établissements Picotti par intermédiaire de bâtissage.
Oui.
Alliance des assurances, Groupama aussi en assurance. Mmh. Et puis, j'ai sûrement en oublié, et là, vous allez me faire faire une boulette.
On coupera au montage sinon.
Hein. On va jouer du 2000. Si j'en oublie, bon, mais après, de toute façon, je vais en oublier obligatoirement. Je sais pas sûr, tous en tête. On a une trentaine, quoi, donc ça permet d'avoir pas mal de monde. Et ça va de petites sommes jusqu'à des plus grosses.
Oui, bien sûr. Et vous avez des manifestations
président du club, est-ce que vous avez un plan ou est-ce que vous savez où vous voulez aller dans les 3 ans à venir?
Alors, oui, mais je ne vous le dirai pas.
Bon. C'est noté.
J'ai pas entendu la question ni la réponse, moi.
La question, c'était, est-ce qu'il y a un plan à 3 ans pour l'étoile sportive de Champigny? Et la réponse de Pascal, c'est non, je ne vous le dirai pas. Voilà.
Oui, mais j'ai parlé de R2, moi. J'ai parlé de R2 et à aucun moment, j'ai entendu Pascal me contredire.
Ah. J'ai pas non plus infirmé. Hein.
On est bien d'accord.
Bon, après, déjà, s'il monte en R3 cette saison, ce sera des... je pense que Pascal, le président, sera déjà très content.
Oui, voilà, exactement.
Et puis, le foot, c'est quand même le sport le plus incertain et là où il y a le plus de... Quand on a un club de rugby, au final, on sait contre qui on est plus fort, on sait contre qui on est moins fort. On peut estimer son nombre de victoires et son nombre de défaites hein, relativement facilement. Quand on a un club de foot, par contre, dans un championnat aussi relevé que la D1, savoir à l'avance combien de points on va finir et savoir où on va en prendre, c'est, je pense que le président confirmera, c'est très très compliqué d'avoir un tableau de marche.
Là, je sais pas, c'est compliqué, je pense que c'est impossible.
Oui, tout à fait.
Et c'est nul est né de vin, et puis bon, sur d'un week-end sur l'autre, il suffit que le temps soit catastrophique, qu'il y ait des joueurs blessés, que. C'est un match, c'est jamais gagné d'avance et c'est jamais perdu d'avance non plus. Donc c'est très aléatoire en fait. Il y a effectivement vous êtes plus les équipes qui sont plus fortes les unes que les autres, mais après derrière ça, à un moment donné, à un moment T, je dirais c'est pas forcément vrai.
Bah tout à fait, il y a la dynamique qui joue, puis après voilà, il y a de la réussite sur le match, on peut faire 8 poteaux et perdre 1-0 en méritant mieux. Et malheureusement le mérite et le nombre de points qu'on a à la fin de saison, c'est pas toujours en corrélation.
Voilà, tout à fait. Mais après, c'est vrai que c'est dans la zone de vérité où ça se décide.
Oui, tout à fait.
Dans les deux surfaces. Donc,
Moi, je voulais aussi évoquer vos jeunes. Vous nous disiez du coup que vous aviez quelques équipes au niveau régional. Comment elles se comportent, ces équipes-là? Est-ce qu'elles vont pouvoir rester au niveau régional? Et puis, j'imagine que c'est important pour le club d'avoir des bonnes bases sur lesquelles construire comme c'est le cas.
Alors, l'équipe U18 est troisième. Mais elle ne pourra pas aller en 19-1 puisque c'est que les deux premiers.
D'accord.
En plus, après, ben, on est en train de voir avec les jeunes à savoir quel est l'effectif qu'on a la saison prochaine, puisque ben, ils arrivent à un âge où ils ont passé le bac cette année, où ils sont encore en train de le passer. Et donc ça s'en va à Toulouse, à Poitiers, à Bordeaux. Ça se cadre dans tous les sens, quoi. Donc, on ne sait pas si on aura un effectif 19 ou pas l'année prochaine. On ne sait pas. Donc, je dirais ce qui restera d'effectif, ceux qui passeront en senior. Tout ça, je dirais, ça va se mettre en place dans les semaines qui viennent. Et puis après, on a une équipe U16 qui est en R2, qui est sixième. Donc, elle, là, aujourd'hui, je dirais, elle est qualifiée pour aller en 17 R2. Il lui reste un match à faire à la maison dans 2 semaines. Et elle reçoit Saint-Palais, qui est septième. Et qu'il va avoir un point de retard sur Renault.
D'accord.
Donc, je dirais, c'est le match match du maintien en R2 ou match de redescente en district.
Donc en gros, c'est un match à ne pas perdre celui-là.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que pour les jeunes, c'est compliqué parce qu'il y a 10 équipes dans la poule et il faut être dans les 6 premiers. Dans les 6 premiers, c'est premier pour monter en R1 et casser dans les 6 premiers pour rester en R2, quoi.
Mais par contre, j'imagine que pour eux, c'est hyper intéressant de se déplacer. Vous parliez de Saint-Palais, il y a aussi des déplacements, j'imagine, dans d'autres départements. C'est intéressant. Alors, en termes de niveau.
Oui, oui, tout à fait. Oui, bah, les 18 ans sont allés un peu sur Bordeaux et sur La Rochelle. Et les 16 ans sont beaucoup plus sur Limoges, Brive, Couzex. Hein. Ils sont plus tournés sur la région Limousin, Dordogne. Donc, ça fait des gros déplacements, par contre.
Mais ouais, c'est ça que je trouve pas. Je trouve ça difficile pour les jeunes, tous ces déplacements de samedi.
Ouais, oui, après, il y a 9 déplacements dans l'année, quoi.
Oui.
Oui, puis c'est quand même plus intéressant que d'aller se confronter à des bonnes équipes de ligue plutôt. En plus, en Charente, on manque d'équipes de jeunes en ligue. Hein. Il n'y a pas forcément beaucoup d'équipes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc c'est bien que les vôtres y parviennent.
Bien sûr.
Bah, c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup dans la mesure où il n'y a que les 6 premiers qui peuvent rester en ligue, quoi.
Ouais,
ouais. Donc c'est le règlement qui fait ça parce que en fait, si vous finissez 7e. Vous n'avez pas démérité. Si vous finissez 8e, vous n'avez pas démérité non plus. Mais vous redescendez, quoi. Et donc après, il faut une saison pour pouvoir remonter. Il n'y a qu'une seule équipe qui va remonter dans une.
Ah oui.
Donc c'est beau. Pour les jeunes, je dirais, c'est faire toute sa formation en ligue, c'est exceptionnel, quoi.
Tout à fait. Et puis c'est comme dans le football en général, c'est plus facile de descendre que de monter.
Oui, oui, surtout là, quand vous voyez qu'il n'y a que le premier qui monte et les 4 derniers qui descendent, c'est plus facile de descendre.
Et d'ailleurs, par rapport aux jeunes et par rapport à Champigny, il me semble que vous étiez en entente avec Saint-Arix pendant de longues années chez les jeunes. Comment justement vous avez pu, comment s'est passé un peu votre séparation et le fait que finalement, au niveau des jeunes, vous soyez redevenu Champigny.
Moi, c'est sûr, tu m'as bien passé. C'est vrai, ça fait maintenant 3 ans. Ouais, c'est la troisième année, il me semble. Oui, c'est ça, troisième année. Ça s'est passé dans la mesure où, de toute façon, on pouvait plus être en ligue en entente, puisque la ligue a décidé qu'il n'y avait pas de club en entente en ligue. Il fallait faire un groupement de jeunes, enfin bon, le truc, c'est des histoires de. Un groupement de jeunes, c'est sur 3 ans, une entente, c'est renouvelable tous les ans.
Oui.
Pour nous, c'était plus simple à gérer, donc même si on a passé 10 ans ensemble, mais après, au niveau de la ligue, ils font ce qu'ils veulent. Et s'ils pensent que c'est comme ça qu'ils auront plus de licenciés, bah c'est leur problème, c'est pas bien. C'est à un moment donné, il faut être logique. Le fait de se retrouver tout seul, ça pose des soucis en fait en termes de quantité et de qualité d'effectifs pour pouvoir monter en ligue. Alors aujourd'hui, je dirais on a 2 équipes en ligue, mais dans la vie, on ne sait pas si on aura 2 équipes en ligue, si on en aura qu'une. Voilà, c'est plus. Après, il faut beaucoup bosser au niveau de l'école de foot pour essayer d'avoir le maximum de gamins qui tournent bien, qui apprennent à bien jouer pour pouvoir avoir des résultats. Ce qui est pas le plus simple.
Bien sûr.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on parlait de la coupe avec le fait que les coupes étaient un peu vieilles entre guillemets. Est-ce que en termes de jeunes, je sais pas, par exemple vos U12. Est-ce qu'il y a des finales départementales à mettre à votre actif et notamment pour ces jeunes de jouer à Le Bon potentiellement?
Non, pas cette année. Non.
D'accord. Et sur les dernières années, sur les 4-5 dernières années?
Non, je vous dirais des bêtises, je m'en souviens pas trop.
D'accord.
On a fait des... Non, mais après, de toute façon, avec le Covid, il s'est rien passé. Donc,
oui, c'est vrai que.
Et, cette année, réellement qu'une année de remise en route. L'année dernière, c'est une année de remise en route, mais la vraie année de remise en route, c'est celle-ci, quoi. Après Covid. Hein.
Et d'ailleurs, donc, plus de 200 licenciés, est-ce que c'était un chiffre comparable avant le Covid ou est-ce que vous avez senti une baisse de vos effectifs?
Non, avant le Covid, on était à peu près dans les 230, on y est descendu à 180 pendant le Covid. Et là, on est remonté à 268.
Ah oui, donc c'est mieux qu'avant le Covid.
C'est bien, c'est très bien.
Oui, oui, oui. Après, c'est pas le but en soi d'être autant. C'est ce qu'on refuse pas forcément, quoi. Donc, je pense qu'on est au maximum à aujourd'hui par rapport à nos structures.
Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein.
Oui, oui. Non, on est à 100% d'exploitation des structures, quoi. On peut pas aller plus loin.
Hein. Ouais, avec 5 éducateurs, c'est déjà bien fourni, non?
Ouais, ouais. Oui, plus pas mal de bénévoles qui donnent un coup de main. C'est géré. Toutes les équipes sont doublées au niveau de l'effectif dirigeant. Il y a un éducateur et un...
Oui, vous avez annoncé tout à l'heure, dans les 262 licenciés, il y avait une trentaine de dirigeants, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui, une trentaine de dirigeants, j'ai cru comprendre.
Ouais, oui, oui, tout.
Bien. Est-ce que vous faites des manifestations en fin de saison?
Alors, on doit en faire une là, tiens, au club, je dirais. On doit faire une journée barbecue, mais on va la faire à la rentrée. Donc, on va faire au mois de juin, on va la faire au mois de septembre. D'accord. Parce que c'est un peu compliqué à organiser tout de suite. Et après, on va reprendre. On a mis en place une structure animation, donc on va reprendre les repas annuels, on va reprendre les bric-à-brac, on va tout reprendre. Parce qu'on avait géré le problème, on a tout laissé tomber depuis le Covid et on a eu du mal à reprendre. Mais après, on travaille très très bien. Alors, au niveau du club, au niveau de la présence sur les matchs, pas mal de monde. On a une buvette qui tourne bien. On n'est pas obligé de faire des manifestations si on n'a pas le temps de les faire.
Pascal, nous arrivons au terme de cet entretien, donc merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. J'adresse à Christian Dédé une dernière question à poser, peut-être.
Bon, moi c'est pas une question, mais j'ai senti lors de cette émission qu'on avait affaire à un président prudent et réservé. C'est ce que j'ai ressenti et je crois que c'est bien.
Merci.
Ambitieux aussi, parce qu'il ne veut pas nous dévoiler ses projets.
Ambitieux, Christian. Et ambitieux,
cherchez
le mot.
Mais après, il a complètement raison. Non, moi, la question que j'avais à poser à Pascal en dernier, bah, c'est justement ce match-là contre Saint-Michel qui arrive samedi. Bon, du coup, la diffusion le match sera joué, mais à votre avis, ça va se jouer sur quoi ce choc au sommet? Qu'est-ce qui peut faire la différence en votre faveur?
L'efficacité. Je pense que ça se joue sur l'efficacité dans les surfaces. Je pense que Saint-Michel est meilleur que nous là-dessus. Donc il va falloir qu'on soit à 200%, parce que sinon, ça ne va pas forcément le faire.
Bien, en tout cas, on vous souhaite le meilleur, Pascal. Vous avez été un interlocuteur de qualité, donc le temps a très très vite passé. On vous souhaite le meilleur donc pour la fin de saison, le meilleur aussi pour le plan à 2 à 3 ans. Donc on sera à l'écoute de ce qui va se passer. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur. À très bientôt, Pascal. Au revoir.
Merci. Au revoir.